nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour Canal Académie de parler de la langue française, des mots, de leurs origines. Mais lorsque notre invitée est Henriette Walter, linguiste renommée, professeure émérite de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne, directrice du laboratoire de phonologie de l'École pratique des hautes études, et surtout auteure d'ouvrages savants, spécialisés, mais aussi d'ouvrages qui font aimer à un vaste public la langue française, eh bien le plaisir est encore plus grand. Henriette Walter, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie pour cette semaine de la langue française. Nous avons déjà proposé aux auditeurs de Canal Académie toute une série sur les rapports entre la langue française et l'arabe. C'est une série que l'on peut trouver dans notre médiathèque. Mais Henriette Walter, votre ouvrage le plus célèbre, on le rappelle, c'est L'aventure des mots français venus d'ailleurs, c'est-à-dire les emprunts du français à d'autres langues. Mais aujourd'hui, on va faire le chemin inverse. On va parler des mots français qui vont vers les autres langues, qui émigrent en quelque sorte, qui voyagent, qui sortent de notre langue et qui vont rejoindre les autres.
Exactement.
Il y en a beaucoup ?
Oh, il y en a d'énormes. Il y a des quantités énormes. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde quels sont les mots étrangers qui sont dans d'autres langues, hein,
oui,
qui se trouvent dans d'autres langues, on trouve que c'est le français qui a le plus émigré. C'est la langue française qui a été, au fond,
pillée, disons-le.
Peut-être qu'on va le dire plus gentiment, on va dire que c'est la langue française qui a été la plus généreuse, qui a donné aux autres langues.
Hein. C'est plus élégant, c'est vrai.
On va le dire comme ça. Lorsque Sergio da Costa, qui est décédé malheureusement maintenant, et qui a fait un livre qui s'intitulait « Les mots sans frontières » qui avait été préfacé par Maurice Druon, lorsque Sergio da Costa a fait son livre, il avait constaté que c'était la langue française qui avait le plus donné, juste un petit peu devant l'anglais et devant le latin. Les autres langues venant très très loin derrière. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le français a tellement été aimé ? Ben, c'est que la langue française a été, c'est vrai, la langue chouchoutée, disons, en tout cas au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et peut-être qu'on peut dire que la langue qui a le plus bénéficié de ces apports du français, c'est l'anglais, justement.
C'est notre proche voisin, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors, on dit toujours histoire d'amour, haine, entre les deux. Nous dirons quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la langue française est entrée dans la langue anglaise très, très tôt, dès le milieu du XIe siècle, puisque Guillaume le Conquérant, 1066, n'est-ce pas ? Et que depuis, eh bien, pendant tout ce temps, pendant tous ces siècles, la langue anglaise a beaucoup emprunté au français. Ce qui fait qu'on a des tas de mots, mais des mots tellement anglais dont on ne peut pas penser que ça vient du français. Exemple, le mot anglais « proud », P-R-O-U-D, qui signifie « fier ». Alors, ça vient d'un ancien français qui s'écrivait P-R-U-D, voilà pourquoi il y a un D en anglais, hein, mais qui, en français, a fini par évoluer et devenir notre mot preux. Donc, vous voyez que...
J'allais dire prud'homme, mais c'est pas
voilà,
prud'homme.
Voilà, c'est presque ça, c'est exactement. Ça va ensemble. Donc, on a des mots comme ça, mais bon, il y en a eu tellement. Vous avez des mots comme « déjà vu ». Alors, je vous le prononce à l'anglaise, déjà vu.
Déjà vu, ah bon,
oui,
très
vis-à-vis,
chic.
Vis-à-vis, et camouflage, laisser faire, grandeur, gourmet, etc. Alors ça, ce sont des mots qui sont arrivés plus tard, mais qui aujourd'hui font partie du vocabulaire normal des gens qui parlent anglais et qui croient que c'est de l'anglais. Alors je vais vous donner deux anecdotes qui sont amusantes. Il y en a une que Sergio da Costa raconte. Un jour, en rencontrant un anglophone, il lui demande quel est le mot anglais pour parler d'une gaffe, du mot français, enfin l'équivalent du mot français gaffe. Et la réponse immédiate de l'anglophone a été, non pas un mot anglais, mais un autre mot français. Il a dit faux pas. un faux pas, et non pas blunder, qui serait le mot anglais correspondant. Autrement dit, pour lui, faux pas, c'est de l'anglais, ça n'est pas du français, alors que nous pouvons lui dire que c'est véritablement du français. Voilà. Alors, bon, l'anglais, c'est donc notre plus grand récepteur, nous dirons. Hein, nos mots, vraiment, se sont sentis très, très, très bien dans la langue anglaise et on pourrait en citer des milliers.
Il n'y a pas que les mots, il y a aussi qu'ils ont donné des tournures, par exemple. Voilà, une tournure prétérite.
Exactement.
Voilà, ils ont donné des tournures, ils ont anglicisé, si on peut dire, voilà, des mots français.
Et alors, ils les ont anglicisés. Comme l'histoire est longue, l'histoire est ancienne, ils ont eu le temps d'angliciser. Souvent, dans les mots qui viennent d'une autre langue, ces mots restent sous la forme qu'ils avaient dans la langue d'origine. Mais quelquefois, ils sont tellement bien intégrés dans la langue nouvelle, disons que véritablement, on a l'impression que bon, ce sont des mots anglais, espagnol, italien, etc. Alors, puisque je vous ai dit italien, alors que si on prend par exemple l'ensemble du vocabulaire anglais et qu'on essaye de voir quels sont les mots d'origine française, on trouve généralement entre 60 et 70% du vocabulaire total.
Bon. Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme. Maintenant, si on prend d'autres langues, c'est toujours le français qui l'emporte, mais il faut à ce moment-là se restreindre aux mots d'origine étrangère dans ces langues. Prenez par exemple le portugais. En portugais, moi j'ai fait moi-même l'étude sur un dictionnaire d'une cinquantaine de milliers de mots, donc un petit peu genre notre petit Robert, notre petit Larousse, hein, quelque chose comme ça. Eh bien, il y avait plus de 9000 mots d'origine étrangère. Eh bien, sur ces 9000 mots et quelques d'origine étrangère, il y en avait 6000, un peu plus de 6000, qui étaient d'origine française.
Française, c'est une majorité.
Donc vous voyez, c'est vraiment une majorité et on va trouver un petit peu la même chose pour le roumain, pour le donc portugais, j'ai dit. Pour l'espagnol, c'est un petit peu moins. Mais surtout, peut-être on pourrait dire un mot, si vous le voulez, sur l'italien.
Oui, disons.
Parce que l'italien... L'italien, c'est une langue latine, c'est une langue qui a été, nous avons été, nous, français, francophones, amoureux transis de l'Italie, de tout ce qui venait d'Italie, de la mode, de l'architecture, de la peinture, tout, surtout au XVIe siècle. Et donc, nous avons également beaucoup emprunté de vocabulaire italien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en italien, ça a été la même chose. C'est-à-dire que ça a été véritablement un amour réciproque. Et que très souvent, on ne sait pas si tel mot vient du français et a été pris par l'italien
ou le contraire. Par exemple,
cependant, vous avez par exemple le verbe mangiare en italien qui vient de manger, tout bêtement. C'est nous qui l'avons donné, c'est pas eux. Alors évidemment, quand on va chercher l'origine, on se dit ah oui, bien sûr, c'est manducare du bas latin. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes des sœurs latines et c'est la forme française qui l'a emportée et qui a donc donné naissance à ce mot en italien.
On pourrait dire la même chose pour jardin, par exemple.
Alors, jardin, giardino, exactement. Alors, lui-même, c'est toujours pareil, hein, si on veut chercher la racine du mot jardin, lui-même, bien sûr, il n'est pas tout à fait français. Il a été transposé lui-même d'une vieille forme de germanique. De francique très très tôt. Et le jardin, à l'origine, pour les Germains, justement, le jardin, ça n'était pas le jardin que nous connaissons avec des fleurs, des petites choses très jolies et très presque
soignées.
Oui, et puis presque. Enfin, la campagne vue un petit peu par le bon côté, nous dirons, ou par le côté élégant, etc. Au contraire, non. À l'origine, c'était uniquement l'enclos. La parcelle bien fermée et bien représentée, puisque les Germains, les Francs, étaient des gens qui voulaient marquer leur territoire. Et d'ailleurs, si vous prenez le mot marqué qui signifie, enfin, dont on a une petite idée pour connaître le sens premier du mot marqué, c'était la marche, c'est-à-dire la limite, d'où le marquis. qui était donc la personne qui était chargée de veiller,
de respecter
les marches. Donc, c'est toujours très intéressant de voir tous ces mots voyageurs, mais ce qui est le plus marquant dans cette histoire, c'est que les mots ont beau venir du germanique, de l'arabe, de l'italien, de l'espagnol, etc. C'est souvent sous la forme française que ces mots sont partis dans d'autres langues et sont devenus des mots internationaux.
Comme si le fait d'être passé dans la langue française leur donnait plus d'autorité, de séduction.
Oui, peut-être un moteur. Ça a donné un moteur. Peut-être qu'il y a eu une espèce de dynamisme. Et donc, on voit ainsi, par exemple, le mot « hôtel » est devenu international. Mais ce mot « hôtel », il est parti dans les autres langues sous la forme du français. Bien sûr, ça vient de « hospitalem » latin. Bien sûr, ça a donné aussi « ospedale » en italien, « hospital » en espagnol, etc.
Mais le mot, c'est
« hôtel ». C'est le mot français, ça n'est pas les autres que l'on trouve. Donc, c'est ça qui est le plus étonnant, finalement, lorsqu'on essaye de voir comment les mots français sont partis ailleurs. Alors, quand ils sont partis, ils n'ont pas toujours gardé la même forme, on le disait tout à l'heure. Ils ont eu le temps, souvent, de s'adapter à la phonologie de la langue qui a emprunté. Mais quelquefois, c'est resté véritablement, et surtout, à l'écrit, quelquefois, c'est vraiment resté sous sa forme, la forme graphique du français. Vous allez prendre, par exemple, le mot « bâton ». Qu'est-ce que c'est qu'un bâton ? En français, on sait ce que c'est. Un bâton, c'est une baguette, c'est quelque chose, c'est une branche qui a été coupée, etc. Eh bien, en portugais, un bâton, c'est pas ça du tout. Un bâton, c'est le bâton de rouge à lèvres, uniquement. Ah, autrement dit, lorsqu'on emprunte une forme à une langue étrangère, on a le droit, et on le fait, de restreindre son sens à un sens très, 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 très particulier. Il y a un mot qui m'a vraiment amusée, c'est en portugais, c'est le mot pomada. Pomada, qui est la pommade, qui lui-même, pour le français, vient de l'italien. Hein. Mais enfin, c'est la forme française qui est partie. Et j'ai appris que pomada, c'est, on peut, par exemple, quand on veut dire qu'un vin a été très, très bon, et uma pomada. C'est-à-dire, c'est un vin qui est comme une pommade, disons. Alors évidemment, pour nous, ce n'est pas trop bien, un vin comme une pommade, mais pour les Portugais,
ça veut dire ce que ça veut dire.
C'est bon. Et alors, il y a un dernier mot que je voudrais vous signaler pour le portugais, c'est le mot Janota. Janota, ça vient de Jano, le prénom Jano, le diminutif de Jean. Et qu'est-ce que c'est qu'un Janota en portugais ? Eh bien, c'est ce que nous appellerions d'un mot emprunté à l'anglais, un dandy. Un dandy, quelqu'un qui est très, très coquet, peut-être, qui est élégant, mais qui est peut-être trop élégant. Voilà. Alors, on se demande d'où ça sort. Il semble que ça sorte d'une pièce de théâtre qui a été très connue au XVIIIe siècle et où, justement, le personnage principal s'appelait Jeannot. D'où ? Et c'était un dandy. Voilà. Donc, on a toujours un petit côté littéraire qui vient s'ajouter, ou bien un petit côté de prestige. On a toujours dit que la langue française, c'était une langue élégante. Bon, on est très content que les étrangers nous disent ça. Nous, ce n'est pas toujours notre cas. Pour nous, on ne dit pas que c'est particulièrement élégant, mais on est content que
les autres pensent
nous
du bien de nous.
Voilà.
Alors, vous aviez l'air de dire, Henriette Walter, qu'il y avait une petite nuance à apporter à l'espagnol. Pourquoi ? Est-ce que l'espagnol a moins emprunté au français
que les autres ? Un petit peu moins parce que l'espagnol a emprunté plus tard. C'est-à-dire que ça n'est pas, les emprunts n'ont pas été dès le Moyen-Âge, mais plutôt à partir du XVIe siècle. Mais bien sûr, on a aussi des mots français en espagnol, par exemple bagage, billete. Je vous le dis un petit peu à l'espagnol, si vous voulez.
Oui,
cacerola, marchar. Voilà ce verbe, marcher, qui est donc, vous voyez, un verbe qui est, en fait vient du germanique, mais qui est passé en espagnol avec notre sens, pantoufle. Hein. Et alors le verbe botar. Botar, c'est jeter en espagnol. Mais c'est quoi ça ? On se dit jeter. Ah ben oui, Quand on parle de Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France. Eh bien voilà, c'est l'ancien mot.
Le B et le V qui se...
Voilà, c'est le vieux mot français qui est passé en espagnol à ce moment-là. Et puis on a coqueta et on est croqueta, les croquettes, etc. Puisque j'ai dit croqueta, beaucoup de vocabulaire de la cuisine.
De la cuisine,
bien
oui,
sûr, sont peu... passés dans toutes les langues, pas seulement en espagnol, pas seulement en portugais ou en italien ou en anglais, mais dans bien d'autres langues.
Et vous remarquez justement que parmi des mots qui sont devenus internationaux, alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le mot hôtel, mais c'est vrai que la majorité des autres tournent non autour du buffet ou de la restauration, mais tournent aussi autour de la vie quotidienne. Au fond, ce sont des mots très quotidiens, le garage, la
exactement.
Boutique.
Exactement. Voilà.
C'est pas
voilà.
des mots savants.
Exactement. Pas forcément, mais des mots qui sont de la vie quotidienne facile. Hein, le garage, c'est quand même une facilité, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Donc, alors, si on passe vers l'allemand. Alors, en allemand, on a du vocabulaire d'origine française. Il y a bien sûr des termes de l'habillement, costume, décolleté, de la cuisine, bouillon, fricassé, mayonnaise. Oh, mayonnaise, il est partout. Hein. Il n'est pas seulement en allemand, il est vraiment, vraiment passé partout. C'est une invention française. Croquante, la praline, hein, bonbon. Mais il faut savoir que, par exemple, bonbon, on le trouve aussi en espagnol. Et bonbon, en espagnol, ce n'est pas vraiment un bonbon. C'est plutôt un petit chocolat. Chocolat fourré, vous savez, ce que nous appelons, nous, des chocolats. Ce que les Belges appellent des pralines.
Oui, alors que nous, donc, faut se méfier un petit
attention,
peu.
Attention,
il y a des faux amis. Faux amis voilà,
ah oui, il y a beaucoup de faux amis. Alors, j'ai trouvé des faux amis extraordinaires et très, très intéressants, très amusants en allemand.
Alors, je vous donne quelques
faux amis en allemand. Par exemple, un baiser. Un baiser, ça n'est pas du tout ce que vous voulez.
C'est important, ça.
Eh oui, c'est pas du tout ce que vous pouvez penser. Eh bien, c'est une meringue. Donc, encore un peu de gourmandise française, là.
Faute de mieux.
Alors, par exemple, une allée, chez nous, c'est petit, une allée. Mmh. Eh bien, en allemand, c'est une avenue. Ça n'est pas du tout quelque chose de petit. Une chaise longue, c'est pour nous, enfin, c'est ce qui correspond à un divan chez nous. L'adjectif « fidèle », ça ne signifie pas du tout « fidèle », ça signifie « gai », « joyeux ».« Alimente », c'est la pension alimentaire. Un « concept », c'est un brouillon. Vous voyez, on va loin.
Alors comment on peut expliquer justement que...
Le changement.
Oui, c'est ça, qu'ils aient changé le sens.
Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on fait quand on emprunte un mot à une langue étrangère. On en fait sa propriété. Et après, on en fait ce qu'on veut, finalement. Tout change, le sens change, tout doucement. Alors, on n'a pas toujours ce qu'il faut dans la littérature pour nous dire, c'est comme ça que c'est arrivé. Quelquefois, on a du mal
à retrouver à l'histoire
comprendre.
De chaque
oui. Vous prenez,
trajet.
Vous prenez, par exemple, le mot antiquaire. Antiquaire, c'est le bouquiniste. Alors, on voit bien, antiquaire, c'est les vieux livres. Mais c'est pas antiquaire. C'est l'antiquaire des livres, et pas n'importe quel antiquaire. Donc on restreint très très souvent, ou bien on restreint, ou bien au contraire, on élargit.
Oui, c'est ça. Hein? En tout cas, on en fait ce qu'on veut. C'est ça qui est important.
Voilà. Alors, lorsqu'on est aux Pays-Bas, on est très très surpris de constater que, par exemple, on dit cadeau. Hein, cadeau, c'est un cadeau, comme nous, pas de problème. Locomotive, c'est locomotive, comme nous. Mais en revanche, si vous êtes à la gare et que vous voyez le mot perron,
oui.
Vous vous dites, eh bien, le perron, c'est quoi ? Ben, c'est le quai. Donc,
voilà.
Si vous cherchez, hein, il faut chercher le
perron
quai.
Numéro 12.
Perron numéro 12, exactement. Exactement. Coupé, c'est le compartiment. Toujours à la gare, toujours dans le train. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux de bouche ? C'est un flot de paroles. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une fricadelle ? Alors, bon, on se dit, c'est français, ça ? Peut-être qu'autrefois...
Ça sonne français, oui.
Eh bien, c'est une saucisse. Et qu'est-ce que c'est qu'une parole ? Une parole, je vous le prononce un petit peu avec le haut long, comme ça devrait se prononcer en néerlandais, c'est le mot de passe, c'est le slogan. Et qu'est-ce que le parterre ? Pas ce qu'on pourrait penser non plus, c'est simplement le rez-de-chaussée dans une maison. Donc, vous voyez, bon, il faut se méfier des faux amis, mais on est content de trouver tous ces mots français qui sont comme des cadeaux, comme des amis que l'on trouve, comme ça, au détour d'une langue qu'on ne connaît pas. Et tout d'un coup, on reconnaît un mot, on dit « Ah oui, mais attention, ça ne veut pas, peut-être pas dire exactement ce, que ça, ce qu'on
ça
croit. »
Ça veut dire chez nous, voilà, dans la nôtre.
Ce que l'on pense. Alors, on peut aller, si vous voulez, jusqu'aux langues scandinaves, les langues plus lointaines, comme le danois ou le suédois. Et j'aimerais insister un tout petit peu sur le suédois. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez hôtel, par exemple, qui est un mot suédois. Mais vous avez aussi restaurang. Je ne sais pas si vous avez entendu à la fin du mot, j'ai dit ang.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, ça s'écrit ang. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire ce ng à la fin du mot restaurant, qui se termine par ant en français? Ils devraient dire, s'ils avaient été logiques, ils auraient dû dire restaurant. Ce que disent beaucoup de ce qu'on dit très souvent dans d'autres langues. Et bien là, alors on est étonné jusqu'au moment où on se souvient qu'il y a eu Bernadotte, qui était roi de Suède.
Oui.
Or Bernadotte était né à Pau.
Ah, il avait l'accent. Ben
mais voilà,
voilà. Il avait un accent.
Et voilà la raison.
Voilà.
Et voilà la raison pour laquelle on a des restaurants et des compliments et des choses comme ça en
suédois.
En suédois, ce qui est vraiment amusant. Un autre mot amusant en suédois, mot qu'on trouve aussi en danois, c'est parleur. Parleur. Qu'est-ce que c'est qu'un parleur ? C'est un. On voit bien que c'est pour parler, bien sûr.
Oui.
Mais ce n'est pas un beau parleur, pas du tout, pas du tout. C'est un guide de conversation. Voilà.
Ah.
Alors, on va chercher son parleur, si j'ose dire, pour, apprendre, pour dire quelques mots dans une langue étrangère quand on est en voyage, par exemple. Voilà.
Voilà. Henriette Walter, vous avez participé aussi, et on va dire un tout petit mot de ce petit livre qui vient de sortir, Les mots migrateurs. Alors,
qui est distribué
par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc c'est le moment d'en parler. Et dans ce livre dont vous avez aidé à la conception, au choix des mots, il y a 10 mots qui sont des mots qui ont voyagé, des mots qui voyagent d'une langue à l'autre, des mots qui se promènent. Et vous aviez envie de nous parler du mot chic et du mot passe-partout.
Oui, parce que...
Passe-partout.
Parce que ce sont deux mots qui ont eu beaucoup de chance, disons, qui ont beaucoup voyagé, qui ont été empruntés, comme on dit empruntés, mais en fait, hein, ce ne sont pas des emprunts, ce ne sont pas des prêts, à vrai dire, on les prend, hein, on les prend et puis c'est fini, on les garde en général. Ouais, on n'a pas du tout l'intention.
On ne les rend pas, oui,
on n'a pas l'intention de les rendre.
C'est un emprunt définitif.
Voilà, alors qu'est-ce que ce mot chic ? Eh bien, il est parti ailleurs, partout. Je disais tout à l'heure que le mot, on considérait la langue française comme quelque chose qui a rapport avec l'élégance.
Mm-hmm.
Hein? Et donc chic, bien sûr, ça a quelque chose de très important dans l'élégance. Mais c'est un mot lui-même d'origine allemande, disons, qui nous est arrivé par l'intermédiaire de l'alsacien et qui, au début, a désigné quelque chose qui avait un rapport avec ce qui se disait dans les ateliers de peinture, d'une part, et aussi dans l'armée. Mais ensuite, bon, maintenant, le chic, hein, c'est le chic de tout le monde. Hein. Quand on est élégant, on est chic. Voilà.
Bon.
Voilà, c'est bon.
Très bien.
C'est bon. Et en ce qui concerne passe-partout, eh bien, c'est un mot qui est passé partout. C'est-à-dire que c'est un mot typiquement français, c'est une locution finalement, hein, un nom composé, qui a été accepté par un grand nombre de langues et qui a pris tous les sens, enfin plutôt d'ailleurs le premier sens qui est le passe-partout qui est la clé qui permet d'ouvrir n'importe quoi. Mais quelquefois, par exemple, quand on est dans un milieu de photographe ou de peintre ou d'aquarelliste, etc., vous savez, le passe-partout, c'est ce cadre dans lequel on peut glisser, on peut mettre n'importe quelle gravure, aquarelle, photo, etc. Donc, c'est un mot qui est parti.
Et puis, on peut être chic avec une tenue passe-partout.
Voilà. Voilà, parce que, en fait, comme vous dites, le vrai chic, c'est l'élégance qui ne se remarque pas. C'est-à-dire que ce n'est pas, on n'est pas excentrique quand on est chic. Hein, on est naturel.
Henriette Walter, merci beaucoup. On vous écouterait des heures, évidemment, parler de ces histoires, des mots français, qu'ils viennent des autres langues ou qu'ils aillent dans les autres langues. On trouvera sur le site internet de Canal Académie toutes les références pour se procurer ce petit ouvrage, Les mots migrateurs, qui est donc proposé par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Et puis, on rappellera, Henriette Walter, que vos livres sont essentiellement publiés chez Robert Laffont. On en donnera toute la liste. Et voilà. Le dernier livre ?
Alors, le dernier, c'était Arabesque.
Arabesque, oui, on en avait parlé.
Voilà, on en a parlé longuement, que j'ai rédigé avec un professeur de l'université de Beyrouth, qui s'appelle Bassam Barakeh, et qui a été publié chez Robert Laffont, et qui parle évidemment de l'arabe, de l'aventure de la langue arabe en Occident, c'est-à-dire les rapports entre les langues occidentales et l'arabe, mais surtout le français et l'arabe.
Et le prochain ?
Alors, le prochain, c'est
si
un
on
nom.
Peut savoir.
C'est un livre qui est sur les noms des oiseaux en français, mais aussi dans plusieurs autres langues, et qui essaye de montrer comment chaque oiseau a retenu l'attention dans les langues différentes, a retenu, enfin, disons, chacune des langues a retenu un trait de l'oiseau.
Un
Ça
aspect.
Pourrait être la couleur. Comme dans le rouge-gorge, ça pourrait être ce qu'il fait, ce qu'il mange, comme le serpentaire, par exemple, ou alors son allure générale, par exemple le pigargue qui est un aigle, qui est l'aigle que l'on voit sur le dollar et qui a dans la queue et le bout de la queue est blanche. Et vous savez que dans pigargue, on voit la même chose que dans Calipige, vous savez ce que c'est que la déesse Calipige, vous voyez, n'est-ce pas ? La déesse Calipige a les fesses belles,
oui.
Cali, hein, belles. Eh bien, le pig de Pigargue, c'est le même que...
Ah, c'est le même mot.
Voilà.
Les noms d'oiseaux par Henriette Walter, on se réjouit d'avance de vous lire. Merci Henriette Walter et à bientôt.
À bientôt.